Mon histoire des femmes, par Michel Perrault, 22e épisode.
Nous avons vu hier les femmes dans l'espace. Aujourd'hui, je voudrais les saisir dans le temps de l'histoire. L'histoire des femmes a sa chronologie, pas toujours facile à établir. Elle a en tout cas ses événements propres, différents souvent de l'histoire politique, plutôt de l'ordre du culturel, du religieux, du juridique, du biologique, du technique aussi. Telle réforme religieuse, tel livre, La Cité des Dames de Christine de Pizan, Le Deuxième Sexe de Simone de Beauvoir, telle découverte médicale, la césarienne ou la pilule, ou telle découverte technique, la machine à coudre ou à écrire, etc. La libre contraception est sans doute l'événement majeur, celui qui a le plus bouleversé les rapports entre les sexes. S'agissant de cette histoire, il faut en tout cas élargir considérablement la notion d'événement et par conséquent d'histoire. Mais ce qui m'importe aujourd'hui, c'est de voir comment l'histoire générale affecte les rapports des hommes et des femmes. Les hommes et les femmes vivent ensemble les grands événements, les ruptures du temps, ensemble et différemment, en raison de leur situation dans la société du moment. Ainsi, on s'est demandé s'il y avait eu une renaissance pour les femmes. Oui, mais pas identique à celle des hommes. Et contradictoire, la renaissance renforce leur devoir de beauté, l'exigence physique de la féminité. Elle leur ouvre l'accès au savoir. La réforme protestante, on l'a vu, est favorable à leur instruction. Mais, comme la réforme catholique, elles sont l'une et l'autre hostiles aux sorcières et s'entendent pour les éliminer parce que les sorcières sont des obstacles à la rationalité triomphante, bouc émissaire de la modernité qui les brûle. Prenons parmi les événements contemporains les grandes ruptures que sont les révolutions et les guerres. La Révolution française, la Première Guerre mondiale par exemple. En quoi ces événements modifient-ils les frontières des sexes? La Révolution française, eh bien, elle est contradictoire. L'universalisme de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ne concerne pas vraiment les femmes. Tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. D'accord, mais les femmes sont-elles des individus? À cette époque, on n'en est pas vraiment sûr. La Révolution, pourtant, leur accorde des droits civils, mais aucun droit politique. Parmi les droits civils, l'égalité dans les successions, l'égalité dans le mariage civil, qui suppose leur libre consentement et peut être dissous par le divorce, le droit de gérer leurs biens si elles sont seules ou en fonction du contrat de mariage, etc. C'était une rupture, il faut bien le voir, avec la plupart des coutumes de l'Ancien Régime, en particulier la coutume normande, qui ne reconnaissait aux femmes aucun droit. Et cela, c'est l'origine du crime de Pierre Rivière, le parricide aux yeux roux, dont Michel Foucault a retrouvé la confession. Souvenez-vous, moi, Pierre Rivière, ayant tué ma mère, ma sœur, mon frère. Et il s'en explique, ce Normand. Les femmes, dit-il, gouvernent à présent. Pour lui, la Révolution a détrôné le père, comme elle a tué le roi. Pourtant, au moment où il fait son crime, la Restauration a supprimé le droit au divorce et le Code civil de 1804, monument d'iniquité, selon Georges Sand, a rétabli le mari père dans son pouvoir patriarcal. Pierre Rivière délire, ou bien alors il anticipe. En tout cas, la Révolution française, si elle donne des droits civils aux femmes, les exclut de l'exercice de la politique, à commencer par le droit de vote. Elles sont toutes dites citoyennes passives, aux côtés des mineurs, des étrangers, des plus pauvres et des fous. Pour le moment du moins, disait Sieyès, organisateur du suffrage. Et c'était, il est vrai, l'expression d'un doute. que peu d'hommes, excepté Condorcet, partageaient. En tout cas, une porte entrebâillée dans laquelle le féminisme allait s'infiltrer, voire s'engouffrer. Car dès cette époque, il existe des femmes qui protestent. Ces citoyennes tricoteuses dont Dominique Godinot a raconté l'histoire. Femmes du peuple, urbaines, parisiennes surtout, qui harcèlent les hommes quand elles sont dans les tribunes de l'Assemblée. Une minorité, assurément. La majeure partie des femmes, paysannes, artisanes, ménagères, étaient indifférentes, voire hostiles à la Révolution, qui dérangeait le cours ordinaire des choses et portait atteinte à la religion qu'elle pratiquait plus que les hommes. Mais quelle éclatante minorité que ces femmes des clubs, ces clubs qui furent fermés par les Jacobins. La plus célèbre de ces femmes, eh bien, c'est Olympe de Gouges, actrice, écrivaine, auteure de pièces de théâtre contre l'esclavage des Noirs, et surtout, à jamais, auteure de la fameuse Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne en 1791. Ce texte est contemporain de celui de Condorcet et de celui de Mary Wollstonecraft, The Vindication of the Rights of Women, 1792. Mais il est plus dramatique. Je cite, « Femme, réveille-toi. Le tocsin de la raison se fait entendre dans tout l'univers. Reconnais tes droits. » Il est plus précis également, en 17 articles d'une très grande modernité, dont le fameux article 10. Je cite, « La femme a le droit de monter à l'échafaud, elle doit avoir celui de monter à la tribune. » Olympe de Gouges montait en effet, 2 ans plus tard, à l'échafaud, en 1794, en même temps que Madame Roland. Aujourd'hui, rue Servandoni, dans le 6e arrondissement, non loin du Luxembourg, une plaque honore sa mémoire, presque en face de celle qui rappelle que Condorcet, caché dans la même rue, composa là son esquisse des progrès de l'esprit humain, peu avant de mourir. Et j'imagine ce face-à-face probablement ignoré de Olympe de Gouges et Condorcet, l'un et l'autre favorables aux droits des femmes. On peut rêver beaucoup sur ce face-à-face réel, quoique probablement imaginé. La plupart des révolutions du XIXe siècle sont autant de brèches dans les systèmes de pouvoir, favorables à leur revendication latente de l'égalité des sexes. Ainsi, en 1848, expérience la plus éclatante peut-être, la plus décevante aussi. En dépit de celles qu'on appelle les femmes de 1848, Eugénie Niboyet, Désirée Gay, Jeanne de Rouen et quelques autres, et de leurs journaux, La Voix des Femmes, L'Opinion des Femmes, et de leur club, caricaturé par Daumier et Gavarni, le suffrage universel, car le suffrage est proclamé universel, c'est une des grandes conquêtes de la Révolution de 48, mais ce suffrage universel ne concerne que les hommes. Ils sont considérés comme seuls représentants de la famille, qui demeurent encore en 1848 l'unité de base. Et nous savons que les Françaises devront attendre 1944 pour avoir le droit de voter. En somme, cette révolution pour les droits politiques des femmes, c'était un coup pour rien. On pourrait même dire une exclusion renforcée du fait de l'indifférence du mouvement ouvrier et de la division des femmes. Ainsi, George Sand, qui jouait un tel rôle pourtant dans cette révolution, estimait, comme ses amis républicains et socialistes, que le droit de vote des femmes, c'était très important, mais c'était encore prématuré. Autre type d'événement, les guerres. la Grande Guerre, par exemple, qui par sa longueur et son intensité dramatique a été une véritable épreuve pour la différence des sexes. Pas facile à interpréter, du reste, et on discute à ce sujet. Au premier abord, jusque dans sa symbolique, la Grande Guerre est remise en ordre des sexes. Voilà les hommes au front et les femmes à l'arrière. Eux combattent, elles, les secondes, les remplacent, les soignent, les attendent, les pleurent. Mais en même temps, les femmes, elles entrent dans des lieux et des tâches masculines, dont elles se tirent fort bien. Elles conduisent la charrue, des voitures, des tramways. Dans les usines, les munitionnettes, on les appelait comme ça, tournent des obus pour la guerre. Les femmes gèrent leur budget, manient de l'argent, reçoivent de meilleurs salaires. Elles font grève pour les augmenter, ces salaires. En 1915, on les voit à Paris manifester de leur propre initiative. Elles vont et viennent, elles fument en public, elles prennent des libertés. Les hommes critiquent leurs dépenses, ils rêvent de leur bas de soie, car c'est nouveau à l'époque, et ils soupçonnent leur fidélité. La sexualité de la guerre est problématique. Après-guerre, par conséquent, il y a une volonté de restaurer l'ordre ancien, de revenir au bon temps du passé, l'ordre national, avec la chambre qu'on appelle « Bleu Horizon », tellement elle était nationaliste et conservatrice. L'ordre familial. Les hommes, quand ils reviennent chez eux, tentent de retrouver leurs prérogatives. Et puis au travail aussi, les femmes doivent souvent leur céder la place. Au foyer, d'ailleurs, les retrouvailles sont difficiles pour ces couples souvent désaccordés. Les divorces, comme après toutes les guerres, sont nombreux. Décidément, on s'en aperçoit, plus rien ne sera comme avant. Et d'ailleurs, les années folles, ce qu'on appelle les années folles, c'est-à-dire les années 1920, 1930, ces années-là tentent de tourner la page et elles montrent une profonde crise d'identité masculine avec des hommes perturbés et des femmes plutôt conquérantes avec leurs cheveux coupés courts, leurs robes courtes et leur grande volonté de liberté. En somme, les femmes paraissent, sous l'angle de l'égalité, les principales bénéficiaires de la guerre qui a, au bout du compte, accéléré une évolution largement commencée d'ailleurs auparavant, dès la Belle Époque. C'est pourquoi les années 30 voient monter en Europe les régimes totalitaires, le fascisme italien, le nazisme allemand, et un peu partout des régimes conservateurs. Eh bien, ces régimes-là vont essayer de remettre, encore une fois, les sexes à leur place. Et les régimes totalitaires, toujours, c'est une règle à peu près générale, font de la différence des sexes et de la hiérarchie des sexes un principe absolu. Le chef, le Führer, c'est lui, l'homme. Ce machisme s'appuie, du reste, sur une tentative de séduction auquel les femmes succombent parfois. Voyez dans les bandes d'actualité qu'on nous donne à la télévision les femmes pâmées des manifestations de masse pro-hitlériennes. Ça fait mal. Alors, victimes ou consentantes, les femmes? Eh bien, sur ce point, il y a un débat historiographique qui pose la question essentielle de l'adhésion des femmes, et on pourrait dire plus largement à travers elles, de tout acteur social, à leur rôle. Et voilà les thèses en présence, à propos notamment du nazisme allemand. Pour Gisela Bock, qui est une historienne du nazisme, les femmes allemandes furent avant tout victimes. Victimes de la politique nataliste, mais plus encore, de la stérilisation forcée au nom de la pureté raciale. Leur corps était instrumentalisé et entièrement soumis aux impératifs d'État. Par contre, pour Claudia Kunz, qui est une historienne américaine, les organisations féminines nazies accordaient aux femmes des privilèges matériels et symboliques. Elle a développé cette thèse dans un livre qui s'appelle, le titre est tout à fait significatif, « Les mères patries du Troisième Reich ». Et c'est aussi la thèse de Rita Thalmann, qui a été une des premières à avoir écrit sur la question dès 1982, être femme sous le Troisième Reich. Au fond, ces historiennes insistent sur la responsabilité des femmes dans l'histoire, dans leur propre histoire. Et c'est évidemment une question qu'on ne peut pas éluder si on prétend que les femmes sont actrices de l'histoire. L'expérience française de l'occupation et du régime de Vichy nous fournirait un autre exemple de cela. Le régime de Vichy, travail, famille, patrie, a condamné le féminisme, mais en même temps, il célébrait la mère. La fête des mères, c'est le régime de Vichy. En même temps, il combattait l'avortement. Et souvenez-vous, le film de Chabrol, Une affaire de femme, raconte justement une répression de 1943. Alors, est-ce que les femmes ont consenti ou ont résisté? On en discute, bien entendu. La majorité ont été indifférentes. Une minorité est entrée dans la résistance, généralement plutôt la résistance civile que militaire. Du point de vue de la résistance civile, par exemple, Lucie Aubrac est une grande figure. Et il y a beaucoup de choses à dire sur ces combattantes de l'ombre. Mais à travers ces exemples, ce que je voulais vous montrer, c'est que chaque événement pose la question des rapports entre les sexes. Il les déplace. Ce déplacement plus ou moins égalitaire de la frontière dépend aussi de l'action des femmes, de leur action collective et de la force de leur désir. Et c'est ce que nous verrons demain.
Mon histoire des femmes par Michel Perrault. Réalisation Théâtre Perronneau.